Avant le retour de la Grande Table et de ses invités, le 11 mai, heureuse de vous retrouver pour cette dernière semaine d'écouter révisé. Le temps d'un confinement, France Culture a choisi de faire résonner dans la voix de grands comédiens les mots de grands écrivains. Une invitation à lire ou à relire nos classiques. Des romans, des pièces ou des poèmes, réviser ces œuvres de notre patrimoine littéraire au programme du bac de français, analysées pour vous par des professeurs et inspecteurs généraux de l'éducation nationale. Aujourd'hui, Charles Baudelaire, Les Fleurs du Mal, épisode 2, lecture Elsa Le Poivre de la Comédie Française.
Écoutez, révisez, Olivia Gesbert.
Ce que je sens, c'est un immense découragement, une sensation d'isolement insupportable, une peur perpétuelle d'un malheur vague, une défiance complète de mes forces, une absence totale de désir, une impossibilité de trouver un amusement quelconque. Ces mots, ce sont ceux de Charles Baudelaire dans une lettre à sa mère datée du 30 décembre 1857. Les Fleurs du Mal sont parues depuis l'été, et le poète en attendait une véritable reconnaissance qui n'est pas venue, en tout cas pas sous la forme espérée. Le succès bizarre de mon livre et les haines qu'il a soulevées m'ont intéressé un peu de temps. Et puis après cela, je suis retombée. Je me demande sans cesse à quoi bon ceci, à quoi bon cela. C'est le véritable esprit du spleen. Je ne me rappelle pas être jamais tombée si bas et m'être traînée si longtemps dans l'ennui. Baudelaire, poète maudit plutôt que poète affranchi, lui dont la famille aurait souhaité qu'il suive une carrière de militaire ou de diplomate, de poète éventuellement, mais pas le poète des égouts de Paris comme l'écrit son beau-père le célèbre général Aupic. Lui qui finira privé de tous ses biens, jugé irresponsable. Plus encore que son livre, interdit par la justice au motif de son immoralité, Baudelaire semble condamné au spleen, cette humeur noire devenue l'état d'âme du poète des Fleurs du Mal. Paradoxalement féconde, cette humeur que Baudelaire décrit comme une entrave s'anime d'une vie propre dans le recueil, dès le titre de sa première section, « Spleen et idéal ». Aujourd'hui, vous allez pouvoir écouter une nouvelle sélection de poèmes des Fleurs du Mal, notion centrale du recueil qui a guidé ce choix, l'allégorie. Dans la précédente émission consacrée à Baudelaire, vous avez entendu des tableaux parisiens, dont Paris est le décor allégorique, et cette phrase dans le poème « Le Cygne », tout, pour moi, devient allégorie. Les interprétations sont nombreuses de l'attachement du poète pour cette figure. Son traducteur allemand, Walter Benjamin, en a fait l'armature de la modernité poétique. La caractérisation des différences et de relations entre la comparaison, la métaphore, le symbole et l'allégorie dans la poésie de Baudelaire ont accouché de débats complexes et passionnés. On ne s'y attardera pas. Au lycée, on apprend que l'allégorie est une figure de style qui peut être définie comme la personnification d'une abstraction. Cette définition nous vient de la tradition médiévale de l'allégorie dont le recueil s'inspire. L'édition des Fleurs du Mal, dans la prestigieuse Pléiade, contient un index des allégories dans le recueil. Devinez combien ? Elle en dénombre 665, dont 70 personnifications, marquées par l'emploi d'une majuscule. En s'appuyant sur son étymologie grecque, disons que l'allégorie, c'est au sens plus large, une façon de dire autre chose. Cette figure du discours, fleur de rhétorique, fonctionne ici plus largement à l'échelle du poème. Elle nous montre et rend présent des abstractions, idées, vices, vertus, sentiments, en les personnifiant, voire en les mettant en scène sous une forme concrète et animée. Elles rendent emblématique tout un petit théâtre de l'intime chez Baudelaire sous des figures grotesques et macabres en piochant dans les représentations du Moyen-Âge ou en inventant des formes nouvelles plus actuelles. On ouvre tout naturellement avec l'adresse liminaire au lecteur de Charles Baudelaire. Et c'est aujourd'hui la comédienne Elsa Le Poivre de la Comédie Française qui va traduire le spleen de l'auteur à travers ses lectures des Fleurs du Mal.
Au lecteur. La sottise, l'erreur, le péché, la lésine occupent nos esprits et travaillent nos corps, et nous alimentons nos aimables remords comme les mendiants nourrissent leur vermine. Nos péchés sont têtus, nos repentirs sont lâches, nous nous faisons payer grassement nos aveux et nous rentrons gaiement dans le chemin bourbeux, croyant par de vils pleurs laver toutes nos tâches. Sur l'oreiller du mal, c'est Satan trismégiste qui berce longuement notre esprit enchanté, et le riche métal de notre volonté est tout vaporisé par ce savant chimiste. C'est le diable qui tient les fils qui nous remuent. Aux objets répugnants nous trouvons des appâts. Chaque jour vers l'enfer nous descendons d'un pas, sans horreur, à travers des ténèbres qui puent. Ainsi qu'un débauché pauvre qui baise et mange, le sein martyrisé d'une antique catin, nous volons au passage un plaisir clandestin que nous pressons bien fort comme une vieille orange. Serré, fourmillant comme un million d'helminthes, dans nos cerveaux ribote un peuple de démons, et quand nous respirons, la mort dans nos poumons descend, fleuve invisible, avec de sourdes plaintes. Si le viol, le poison, le poignard, l'incendie n'ont pas encore brodé de leurs plaisants desseins le canevas banal de nos piteux destins, c'est que notre âme, hélas, n'est pas assez hardie. Mais parmi les chacals, les panthères, les lys, les singes, les scorpions, les vautours, les serpents, les monstres glapissants, hurlant, grognant, rampant, dans la ménagerie infâme de nos vices, il en est un plus laid, plus méchant, plus immonde. Quoiqu'il ne pousse ni grand geste ni grand cri, il ferait volontiers de la terre un débris et dans un bâillement avalerait le monde. C'est l'ennui, l'œil chargé d'un pleur involontaire. Il rêve d'échafaud en fumant son houka. Tu le connais, lecteur, ce monstre délicat, hypocrite lecteur, mon semblable, mon frère.
À l'ouverture du recueil, le poète s'adresse directement au lecteur comme à son frère humain, son semblable. Mais cette ouverture ne dure pas, inclus dans le « nous » employé tout au long du poème. Ce lecteur est finalement traité d'hypocrite parce qu'il choisira de ne pas voir le mal qu'il porte en lui. Mais le poète entend bien lui ouvrir les yeux en pointant dès le premier vers l'accumulation des manifestations de ce mal inscrit au plus profond de l'homme. La sottise, l'erreur, le péché, la lésine, le cortège de nos vices est une foule d'animaux, un bestiaire, une ménagerie infâme d'êtres envahissants. En passant par la représentation d'un Satan nourricier berçant l'humanité, sur l'oreiller du mal, écrit Charles Baudelaire, il culmine dans l'évocation finale de l'ennui. L'ennui avec une majuscule, attention, allégorie. Le poète l'imagine en monstre délicat, l'œil chargé d'un pleur involontaire qui rêve d'échafaud en fumant son houka. Un monstre au sens propre, c'est ce qui montre, ce qui fait signe. Ici, le poète nous fait voir, sentir et ressentir l'ennui comme mal suprême. Dans le poème, les références religieuses sur un mode blasphématoire, le diable, Satan, l'enfer, côtoient les références mythologiques. Satan est ainsi qualifié de trismégiste, littéralement trois fois grand, adjectif habituellement accolé au nom d'Hermès. Ces figures résonnent avec des images plus prosaïques, exemple de la comparaison qui représente la satisfaction fugace du désir comme une vieille orange intensément pressée. Cette réinvention païenne du fruit de l'arbre de la connaissance fait aussi au passage entendre l'or et l'ange. L'être humain est dépeint comme un être misérable, pantin dirigé par le mal. Mis à nu, le pacte avec le diable n'est pas réservé au poète alchimiste. Ce pacte n'est plus non plus l'apanage d'un héros faustien, c'est l'ordinaire de la vie humaine, le canevas banal de nos piteux destins, décrit au présent dans le poème. La force de l'adresse finale au lecteur, tu le connais, lecteur, ce monstre délicat, fait de lui la victime et le bourreau, et le complice du poète comme lui, voué au mal. Les poèmes que nous vous proposons d'entendre maintenant sont extraits de trois sections différentes du recueil. Certains datent de l'édition de 1857, d'autres sont ultérieurs. Comme une constellation de signes, ils offrent une représentation vivante, sensible et surtout variée du cœur mis à nu du poète.
De profundis clamavi. J'implore ta pitié, toi, l'unique que j'aime, du fond du gouffre obscur où mon cœur est tombé. C'est un univers morne à l'horizon plombé où nage dans la nuit l'horreur et le blasphème. Un soleil sans chaleur plane au-dessus, 6 mois, et les 6 autres mois, la nuit couvre la terre. C'est un pays plus nu que la terre polaire, ni bête, ni ruisseau, ni verdure, ni bois. Or, il n'est pas d'horreur au monde qui surpasse la froide cruauté de ce soleil de glace et cette immense nuit semblable au vieux chaos. Je jalouse le sort des plus vils animaux qui peuvent se plonger dans un sommeil stupide, tant les chevaux du temps lentement se dévident. La cloche fêlée. Il est amer et doux, pendant les nuits d'hiver, d'écouter, près du feu qui palpite et qui fume, les souvenirs lointains lentement s'élevaient au bruit des carillons qui chantent dans la brume. Bienheureuse la cloche au gosier vigoureux qui, malgré sa vieillesse, alerte et bien portante, jette fidèlement son cri religieux ainsi qu'un vieux soldat qui veille sous la tente. Moi, mon âme est fêlée, et lorsqu'en ses ennuis elle veut de ses chants peupler l'air froid des nuits, il arrive souvent que sa voix affaiblie semble le râle épais d'un blessé qu'on oublie au bord d'un lac de sang, sous un grand tas de morts, et qui meurt sans bouger dans d'immenses efforts. Spleen. Pluviose, irritée contre la ville entière, de son urne à grands flots verse un froid ténébreux aux pâles habitants du voisin cimetière et la mortalité sur les faubourgs brumeux. Mon chat sur le carreau, cherchant une litière, agite sans repos son corps maigre et galeux. L'âme d'un vieux poète erre dans la gouttière avec la triste voix d'un fantôme frileux. Le bourdon se lamente et la bûche enfumée accompagne en fausset la pendule enrhumée. Cependant qu'en un jeu plein de sales parfums, héritage fatal d'une vieille hydropique, le beau valet de cœur et la dame de pique causent sinistrement de leurs amours défunts. Brumes et pluies. Ô fin d'automne, hiver, printemps trempé de boue, endormeuse saison, je vous aime et vous loue d'envelopper ainsi mon cœur et mon cerveau d'un linceul vaporeux et d'un vague tombeau. Dans cette grande plaine où l'autant froid se joue, où par les longues nuits la girouette s'enroue, mon âme, mieux qu'au temps du tiède renouveau, ouvrira largement ses ailes de corbeau. Rien n'est plus doux au cœur plein de choses funèbres et sur qui dès longtemps descendent les frimas, ô blafard de saison, reine de nos climats, que l'aspect permanent de vos pâles ténèbres. Si ce n'est, par un soir sans lune, deux à deux, d'endormir la douleur sur un lit hasardeux. Le masque, statue allégorique dans le goût de la Renaissance, à Ernest Christophe, statuaire. Contemplons ce trésor de grâce florentine. Dans l'ondulation de ce corps musculeux, l'élégance et la force abondent, sœur divine. Cette femme, morceau vraiment miraculeux, divinement robuste, adorablement mince, est faite pour trôner sur des lits somptueux et charmer les loisirs d'un pontife ou d'un prince. Aussi, vois ce sourire fin et voluptueux, où la fatuité promène son extase, ce long regard sournois, langoureux et moqueur, ce visage mignard, tout encadré de gaze, dont chaque trait nous dit avec un air vainqueur « La volupté m'appelle et l'amour me couronne. » À cet être doué de tant de majesté, vois quel charme excitant la gentillesse donne. Approchons et tournons autour de sa beauté. Ô blasphème de l'art, ô surprise fatale, la femme au corps divin promettant le bonheur, par le haut se termine en monstre bicéphale. Mais non, ce n'est qu'un masque, un décor suborneur, ce visage éclairé d'une exquise grimace. Et regarde, voici crispé atrocement la véritable tête et la sincère face renversée à l'abri de la face qui ment. Pauvre grande beauté, le magnifique fleuve de tes pleurs aboutit dans mon cœur soucieux. Ton mensonge m'enivre et mon âme s'abreuve au flot que la douleur fait jaillir de tes yeux. Mais pourquoi pleure-t-elle, elle, beauté parfaite, qui mettrait à ses pieds le genre humain vaincu? Quel mal mystérieux ronge son flanc d'athlète? Elle pleure insensée par ce qu'elle a vécu et par ce qu'elle vit. Mais ce qu'elle déplore surtout, ce qui la fait frémir jusqu'aux genoux, c'est que demain, hélas, il faudra vivre encore. Demain, après-demain et toujours. Comme nous. À une madone, ex voto dans le goût espagnol. Je veux bâtir pour toi, madone, ma maîtresse, un autel souterrain au fond de ma détresse, et creuser dans le coin le plus noir de mon cœur, loin du désir mondain et du regard moqueur, une niche d'azur et d'or tout émaillée, où tu te dresseras, statue émerveillée. Avec mes vers polis, treillis d'un pur métal, savamment constellés de rimes de cristal, je ferai pour ta tête une énorme couronne. Et dans ma jalousie, ô mortelle madone, je saurai te tailler un manteau de façon barbare, roide et lourd, et doublé de soupçons, qui, comme une guérite, enfermera tes charmes, non de perles brodées, mais de toutes mes larmes. Ta robe, ce sera mon désir, frémissant, onduleux, mon désir qui monte et qui descend, aux pointes se balance, aux vallons se repose, et revêt d'un baiser tout ton corps blanc et rose. Je te ferai de mon respect de beaux souliers, de satin, par tes pieds divins humiliés, qui, les emprisonnant dans une molle étreinte, comme un moule fidèle en garderont l'empreinte. Si je ne puis, malgré tout mon art diligent, pour marchepied tailler une lune d'argent, je mettrai le serpent qui me mord les entrailles sous tes talons, afin que tu foules et railles, reine victorieuse et féconde en rachat, ce monstre tout gonflé de haine et de crachat. Tu verras mes pensées, rangées comme les cierges, devant l'autel fleuri de la reine des vierges, étoilant de reflets le plafond peint en bleu, te regarder toujours avec des yeux de feu. Et comme tout en moi te chérit et t'admire, tout se fera à benjoin, encens, oliban, myrrhe, et sans cesse vers toi, sommet blanc et neigeux, en vapeur montera mon esprit orageux. Enfin, pour compléter ton rôle de Marie, et pour mêler l'amour avec la barbarie, volupté noire, des 7 péchés capitaux, bourreau plein de remords, je ferai 7 couteaux, bien affilés, et comme un jongleur insensible, prenant le plus profond de ton amour pour cible, je les planterai tous dans ton cœur pantelant, dans ton cœur sanglotant, dans ton cœur ruisselant.
À partir de cette série de sonnets, lus par la comédienne confinée Elsa Lepoivre de la Comédie-Française, on continue notre analyse des Fleurs du Mal de Baudelaire, élaborée par les inspecteurs généraux de l'éducation nationale. La démarche allégorique consiste à projeter les états intérieurs du poète vers l'extérieur, à décrire l'âme ou le cœur du poète comme des paysages grâce à la reine des facultés, l'imagination créatrice. Dans ces sonnets, des paysages hivernaux, une atmosphère brumeuse et lugubre traduisent un état d'âme dysphorique, anxieux. Pluviose, qui ouvre le premier d'une série de plusieurs poèmes intitulés Spleen, en est l'allégorie terrifiante. Par l'anachronique calendrier révolutionnaire, elle rappelle le règne de la mort. La prière du De Profundis est énoncée du fond d'un gouffre obscur, dont le paysage de désolation se décline en pays plus nu qu'une terre polaire. Rappelons que Baudelaire avait souhaité intituler le recueil « Les limbes », métaphore spatiale d'un temps arrêté ou presque, « tant l'écheveau du temps lentement se dévide », écrit-il. Le poète semble ici aspiré dans un enfer, inspiré de Dante et réactivé par la vie moderne. Dans un autre sonnet, l'âme du poète est à l'agonie, comparée la cloche fêlée, elle-même rapprochée du râle d'un blessé qu'on oublie, au bord d'un lac de sang sous un grand tas de morts. Double allégorie. Le dernier vers du sonnet imite dans son rythme le hoquet final du dernier souffle et qui meurt sans bouger dans d'immenses efforts. Dans sa préface de 1860, au Paradis artificiel, Baudelaire notait « Volontiers je n'écrirai que pour les morts. Les êtres semblent se dissoudre avec lui comme des spectres. » Seuls les objets s'animent, dans un face-à-face étonnant, deux cartes à jouer conversent de la mort de l'amour. Réduit à une discrète présence, c'est son propre effacement que fait voir le poète. En donnant vie à des idées ou des sentiments, l'allégorie articule la mort et la vie, comme la poétique baudelairienne les fait étrangement fusionner. Plus de la moitié des poèmes des Fleurs du Mal sont des sonnets, alors que la mode poétique est plutôt à la forme longue, Baudelaire, lui, aime sa brièveté. Un sonnet compte 14 vers qui se répartissent en deux temps, les quatrains et les tercets. Parce que la forme est contraignante, l'idée jaillit plus intense, écrit Baudelaire en 1860. Et d'ajouter, avez-vous observé qu'un morceau de ciel aperçu par un soupirail donnait une idée plus profonde de l'infini que le grand panorama vu du haut d'une montagne? Dans les paysages qu'il invente, Baudelaire crée un infini diminutif selon sa formule extraite de Mon cœur mis à nu. Le cadre du sonnet est la porte de l'infini et l'art en est la voie d'accès. Le masque, comme le poème à une madone, dote d'une vie sculpturale des figures féminines très érotisées qui dessinent pour le poète comme une sortie de l'enfer par l'art. Les poèmes que vous allez entendre maintenant pour terminer ce parcours, Hymne à la beauté et les deux dernières parties du voyage final, fixent en art poétique la quête de transcendance professée dès le début du recueil. Vous serez attentif à la question inquiète qui ouvre le premier. Viens-tu du ciel profond ou sors-tu de l'abîme, ô beauté ? Redoublé deux strophes plus loin par « Sors-tu du gouffre noir ou descends-tu des astres ?» Finalement, l'hymne chantera l'indifférence à la réponse attendue. Que tu viennes du ciel ou de l'enfer, qu'importe. De Satan ou de Dieu, qu'importe. Ange ou sirène, qu'importe. La beauté elle-même est devenue un monstre poétique qui peut rendre l'univers moins hideux et les instants moins lourds, écrit Baudelaire, parce qu'elle ouvre la porte d'un infini que j'aime et n'ai jamais connu, dit la voix du poète. Précisément dans le voyage, berçant notre infini sur le fini des mers, c'est le poème dans son cadre restreint qui nous emmène vers le fond de l'inconnu, qu'il s'agisse de l'enfer ou du ciel, ou des plaines sans horizon du désert de l'ennui. Les derniers mots du recueil sont lancés par les exclamations « en avant », puis « appareillons » et s'adressent directement à la mort, compagne d'un voyage maritime qui promet la lumière dans et par l'obscurité même. Qu'importe si l'aboutissement de la traversée allégorique est acceptation d'une vacuité profonde. C'est le prix à payer pour la conquête du nouveau, en italique dans le texte, devenu cap idéal de l'aventure poétique pour toute la génération qui va suivre. Un jeune poète de 17 ans, Arthur Rimbaud, n'oubliera pas la leçon.
Hymne à la beauté. Viens-tu du ciel profond ou sors-tu de l'abîme, ô beauté ? Ton regard, infernal et divin, verse confusément le bienfait et le crime, et l'on peut pour cela te comparer au vin. Tu contiens dans ton œil le couchant et l'aurore, tu répands des parfums comme un soir orageux. Tes baisers sont un filtre et ta bouche une amphore qui font le héros lâche et l'enfant courageux. Sors-tu du gouffre noir ou descends-tu des astres? Le destin charmé suit tes jupons comme un chien. Tu sèmes au hasard la joie et les désastres, et tu gouvernes tout et ne réponds de rien. Tu marches sur des morts, beauté, dont tu te moques. De tes bijoux, l'horreur n'est pas le moins charmant, et le meurtre parmi tes plus chères breloques, sur ton ventre orgueilleux danse amoureusement. L'éphémère ébloui vole vers toi, chandelle, crépite, flambe et dit « Bénissons ce flambeau !» L'amoureux pantelant, incliné sur sa belle, a l'air d'un moribond caressant son tombeau. Que tu viennes du ciel ou de l'enfer, qu'importe, ô beauté, monstre énorme, effrayant, ingénu, si ton œil, ton sourire, ton pied m'ouvre la porte d'un infini que j'aime, et n'est jamais connu. De Satan ou de Dieu, qu'importe, ange ou sirène, qu'importe si tu rends, fée aux yeux de velours, rythme, parfum, lueur ô mon unique reine, l'univers moins hideux et les instants moins lourds. Le voyage à Maxime Ducamp. Amer savoir, celui qu'on tire du voyage. Le monde monotone et petit, aujourd'hui, hier, demain, toujours, nous fait voir notre image. Une oasis d'horreur dans un désert d'ennui. Faut-il partir ? Rester ? Si tu peux rester, reste, pars s'il le faut. L'un court et l'autre se tapit pour tromper l'ennemi vigilant et funeste, le temps. Il est, hélas, des coureurs sans répit, comme le juif errant et comme les apôtres, à qui rien ne suffit, ni wagon, ni vaisseau, pour fuir ce rétillère infâme. Il en est d'autres qui savent le tuer sans quitter leur berceau. Lorsqu'enfin il mettra le pied sur notre échine, nous pourrons espérer et crier « En avant !» De même qu'autrefois nous partions pour la Chine, les yeux fixés au large et les cheveux au vent. Nous nous embarquerons sur la mer des ténèbres avec le cœur joyeux d'un jeune passager. Entendez-vous ces voix charmantes et funèbres qui chantent ? Par ici, vous qui voulez manger le lotus parfumé, c'est ici qu'on vendange les fruits miraculeux dont votre cœur a faim. Venez vous enivrer de la douceur étrange de cet après-midi qui n'a jamais de fin. À l'accent familier, nous devinons le spectre. Nos pylades là-bas tendent leurs bras vers nous. Pour rafraîchir ton cœur, nage vers ton électre, dit celle dont jadis nous baisions les genoux. Ô mort, vieux capitaine, il est temps, levons l'ancre. Ce pays nous ennuie. Ô mort, appareillons. Si le ciel et la mer sont noirs comme de l'encre, nos cœurs que tu connais sont remplis de rayons. Verse-nous ton poison pour qu'il nous réconforte. Nous voulons, tant ce feu nous brûle le cerveau, plonger au fond du gouffre, enfer ou ciel, qu'importe, au fond de l'inconnu pour trouver du nouveau.
C'était Les Fleurs du Mal de Charles Baudelaire, épisode 2, lecture signée Elsa Lepoivre de la Comédie Française. Et maintenant, tous à vos livres, écoutez Réviser, une émission produite par France Culture avec le ministère de l'Éducation nationale, préparée par Renaud Ferreira de Oliveira, inspecteur général, et Laure Soudy, professeur. Fiction coordonnée par Blandine Masson, réalisée par Sophie Haute-Picon, avec Bastien Varigaud à la technique. Mise en onde, Midia Portis-Guérin. Sur franceculture.fr, vous le savez, vous pouvez réécouter l'émission, la podcaster et retrouver toutes les informations compilées et mises en page par Laura Dutèche-Pérez. Un grand merci pour vos retours. Très bel après-midi sur France Culture. À demain.